Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC. Estelle est encore en vacances, elle revient dès lundi prochain. En attendant, Mao Becker-Granier est autour de moi, à côté de moi, pour nous donner toutes les infos, pour tout comprendre. Thierry Moreau également, journaliste. Emmanuel Dancourt, journaliste indépendante. Et dans un instant, on vous pose cette question, réfléchissez bien. Seriez-vous prêt à vous passer des réseaux sociaux pour préserver votre santé mentale? Vous nous appelez au 32-16. À 14h30, ce seront les immanquables de Mao avec le nouveau métier du jour et une école de sorciers en Bretagne. C'est très sérieux. Vers 14h50, le quiz d'Estelle avec à gagner aujourd'hui, Mao.
Toujours un tote bag RMC et le célèbre jeu de société, le 1000 bornes. Inscrivez-vous donc encore maintenant au 32-16, touche 4, ou envoyez le mot quiz par SMS au 7-32-16. Quiz par SMS au 7-32-16.
C'est la décision du jour, décision prise par l'acteur Tom Holland, celui qui incarne notamment Spider-Man à l'écran. Décision de se retirer des réseaux sociaux. Mao, le comédien, dit être inquiet pour sa santé mentale.
Oui, dans une vidéo de 3 minutes postée sur Instagram, Tom Holland décrit l'impact des réseaux sur lui. Trop écrasant, il se dit submergé par tous les messages à son égard. Ne sachant plus gérer tous les commentaires qu'on lui envoie, il décide donc de supprimer ses profils de tous les réseaux. Et Tom Holland n'est pas le seul. Avant lui, d'autres célébrités l'ont fait, Karine Le Marchand, Ed Sheeran, et certains sont partis puis revenus, comme Selena Gomez ou Elon Musk. Depuis plusieurs années, les chercheurs s'intéressent à l'effet des réseaux sociaux sur notre santé mentale. Les réseaux favorisent les comparaisons avec les autres basées sur l'image, qui peuvent fortement impacter l'estime de soi. On a tendance toujours à trouver l'herbe plus verte ailleurs et donc à perdre confiance en soi sur les réseaux. Mais il y a aussi la question de l'usage addictif de ces réseaux. Selon le Digital Report 2022, les Français passent, écoutez bien, 1h46 tous les jours sur ces plateformes, et c'est un chiffre qui est évidemment en constante hausse. Or, un lien a été démontré entre le nombre d'heures passées devant un écran et les symptômes dépressifs.
Et ce qui est très intéressant dans le message qu'a adressé Tom Holland sur Instagram dans cette vidéo, c'est qu'il explique, on en parlait ce matin avec Mao, on imagine qu'il reçoit, parce qu'il a 60 millions d'abonnés, enfin c'est une star internationale, mais peu importe, mais qu'il reçoit des insultes, des menaces certainement, des critiques, t'es nul, t'es un mauvais acteur, ou voire des critiques même plus constructives, mais peu importe. Mais il dit aussi, et dans cette vidéo c'est très intéressant, que ça lui donne aussi une surestime de lui. C'est-à-dire qu'on doit lui dire t'es le plus beau, t'es le meilleur, t'es formidable, je t'aime, et au bout d'un moment, Thierry, tu vas pouvoir réagir, mais au bout d'un moment, il dit, moi je suis en train de perdre pied. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on imagine qu'il se dit, ah, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'incroyable, alors je suis le plus beau, et puis là il doit se dire, parce que ça a l'air d'être quelqu'un de très intelligent, il doit dire, mais non, mais attends, arrête, t'es en train de devenir dingue là, arrête. Et puis par moments il doit être en état de dépression parce qu'il reçoit des flots d'insultes, et il dit, mais non, ces gens qui sont-ils, enfin bref, dans la vidéo il explique vraiment qu'il a peur de vriller. Emmanuel, est-ce que tu comprends ça?
Je l'ai regardé cette vidéo, je l'ai trouvée hyper touchante, d'abord parce qu'il commence par dire qu'il l'a enregistrée un nombre incalculable de fois cette vidéo, que cette fois-ci c'est la bonne.
Il a quel âge? 26, 25 ans, 27 ans.
Et c'est une star, chez les ados, c'est vraiment, et les jeunes adultes, c'est vraiment une star. Tom Holland, 26 ans. Ouais. Et moi j'ai adoré la façon dont il présentait, dont il a démarré sa vidéo. Après il explique tout ce que tu dis, mais ça a été une vidéo compliquée à faire pour lui. Puis j'adore la manière dont il la termine en disant, juste pour ce dernier message sur Insta, allez voir tel site internet qu'il a créé avec ses frères et son père pour aider les gens justement qui ont des problèmes sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, il termine par un message de solidarité. Et moi je le comprends. Je le comprends parce que, à titre, je suis quelqu'un qui n'était pas beaucoup sur les réseaux sociaux il y a encore un an. J'étais un vrai fantôme numérique. Franchement, j'ai trouvé des messages, même sur Facebook, qui dataient de 3 ans auxquels j'avais pas répondu. Enfin, vraiment, c'est vraiment pas mon truc. Mais il a bien fallu, par la force des choses, en arrivant dans ce combat qui me caractérise, contre les violences sexistes et sexuelles, et en tant que présidente de l'association MeToo Media d'une part, et puis en arrivant dans cette émission, la première émission, je me retrouve à côté de Thierry Moreau, qui lui alors est complètement sur les réseaux sociaux, qui est à fond dedans, et moi je regardais en me disant, oh là là, peut-être falloir que je m'y mette, parce que là j'ai 3 trains de retard par rapport à Thierry. Donc je m'y suis mise, Twitter, Insta et tous les autres trucs, sauf que j'ai subi du harcèlement en ligne. Ça a duré 3 mois. J'ai fait des attaques dépressives. Je ne sais pas d'ailleurs si ça s'est entendu dans l'émission ou pas. Peut-être pas. Parce qu'on essaie de cacher ce genre de choses. Et ça a été très, très dur. Et c'est les gens de ma vraie vie, notamment mon compagnon, qui m'ont tiré de là, qui m'ont extirpé. Parce que les réseaux sociaux, ça peut être formidable, mais ça peut être d'une violence totalement inouïe. Les gens n'ont pas de filtre. C'est un lieu où on se déchaîne complètement, gratuitement, souvent sous couvert d'anonymat aussi. C'est un défouloir. Et les effets de meute, ils sont démultiplié. Et la seule chose, c'est de cesser, c'est de partir, et c'est le seul moyen d'en sortir. Et moi, j'ai vécu 47 ans, donc c'était sans ces réseaux sociaux, très bien vivre le reste de sa vie sans ça. Enfin, moi, Thierry, je suis pas sûr, mais moi.
Thierry, on va lui poser la question. Thierry, est-ce que, et on vous pose la question, vous nous appelez au 3216, est-ce que tu serais prêt à te passer des réseaux sociaux si tu sentais que ta santé mentale était menacée?
Alors, je ne sens pas ma santé mentale menacée, donc je ne me passerai pas des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a deux sujets, en fait, dans ce qu'a fait Tom Holland. Il y a la gestion de la célébrité, et je pense que réseaux sociaux ou pas, il y a des gens qui gèrent bien ou pas bien leur célébrité. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a des gens qui pètent les plombs, et moi j'en ai connu en télévision bien avant l'arrivée des réseaux sociaux, qui ne s'entourent de gens que... qui disent que ce qu'ils ont envie d'entendre, qui se font dire qu'ils sont les meilleurs et qu'ils ne supportent pas la moindre critique. Et ça, alors, c'est exacerbé par les réseaux sociaux parce qu'en plus, on a cette communauté de fans qui vous idolâtre et donc ça accentue le phénomène. Mais ça reste un problème de gestion de la célébrité. Je vais prendre une deuxième star, Keanu Reeves, qui gère la célébrité, lui, à sa façon. Quand il y a un paparazzi qui est en train de le voir, en train de vivre une semaine avec un SDF, ça se passe très, très bien. Ouais. Quand il donne son argent à des gens en sortant d'une boulangerie, ça se passe très, très bien. Il gère parfaitement bien. Et il est sur les réseaux sociaux. Donc, je veux dire que vraiment, les réseaux sociaux, il faut les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire quelque chose avec lequel il faut garder de la distance. Alors, je sais que c'est pas forcément facile de garder de la distance. Je vais
donner
un exemple.
Surtout pour les ados.
Il y a un an, jour pour jour, j'ai eu un mot malheureux sur les antivax à l'antenne de RMC. Malheureux parce que je me suis tout de suite excusé. J'ai subi derrière un déferlement qui continue encore de gens qui donnent mon nom, mon adresse, m'ont menacé de mort, m'ont dit qu'ils allaient me retrouver le grand jour où on retrouverait tous les provax. Donc, je pense qu'il faut juste prendre de la distance. Les réseaux sociaux, c'est comme tout. Il faut les utiliser pour ce qu'ils sont et pas en abuser. Il y a deux dangers avec les réseaux sociaux, en fait. C'est la vie rêvée que ça te donne à penser de ce qu'est la vie des autres. Et ça peut être un danger pour des gens un petit peu faibles. Mais j'ai envie de dire que les gens qui ont un problème, je dirais, avant d'aller sur les réseaux sociaux, ça ne sera qu'exacerbé par les réseaux sociaux.
Et la deuxième chose, c'est déjà pas rien, hein.
Et la deuxième chose, c'est s'informer uniquement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un vrai problème.
Ouais. Je connais des gens qui font ça.
Et il y a même des journalistes qui ne s'informent plus sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un drame.
Mais tu vois, toi, t'es un homme mûr, t'es un homme fait. Les gens te connaissent depuis longtemps en télévision. T'as un compte Twitter avec je ne sais combien de centaines de milliers d'abonnés. Et tu maîtrises parfaitement cette chose-là. Mais la plupart des gens sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents qui sont en pleine construction psychique ou de jeunes adultes qui n'arrivent absolument pas. Et il y a un effet miroir dans ces réseaux sociaux. On parlait de dépression tout à l'heure, d'un taux de dépression ou d'attaque dépressive assez hallucinant. Toi et moi, et pourtant moi je pensais être une femme hyper solide, et tu vois je me suis complètement fait déstabiliser par le truc. Et des adolescents moins formés que nous, moins âgés déjà, moins construits, ça peut détruire des vies. Enfin, on sait très bien qu'il y a des suicides, hein, pas que sur les réseaux sociaux, ils se suicident pas en fermant leur compte Twitter ou Insta. Des suicides derrière, on le sait, et là ça devient très très grave.
On va au 32-16 retrouver Greg qui nous appelle depuis Clermont-Ferrand. Bonjour Greg.
Bonjour à tous et à toutes.
Bienvenue sur RMC, merci de nous rejoindre dans Estelle Midi. Greg, vous utilisez les réseaux sociaux ?
Non, plus maintenant, terminé. Ah,
vous avez quitté les réseaux sociaux ?
Oui, enfin j'y allais pas forcément en tant qu'utilisateur, mais plus pour regarder les informations Facebook ou autre.
Oh, d'accord, donc il y avait, c'était les réseaux, bon on peut citer des noms, hein, c'était quoi Facebook, Instagram, des choses comme ça ?
C'est ça.
D'accord, et pourquoi vous les avez quittés ?
Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le manque d'informations. Moi, je travaille dans une entreprise pour le ferroviaire. Bon, pour
La SNCF, par exemple, non les...
Oui, par exemple. Oui. Il fallait voir les bêtises qui sont inscrites. C'est-à-dire que des gens lancent des informations sans aucune information ou vérification. C'est hallucinant.
Et ça, ça vous minait moralement au bout d'un moment?
Oui, ça m'est arrivé un soir où des personnes de ma famille me relayaient des messages Facebook, Instagram, ainsi de suite, sur mon entreprise, en disant qu'elle avait fait ci, pas fait ça, qu'elle aurait dû faire ainsi de suite. Et jusqu'au jour, oui, effectivement, j'en avais marre de recevoir des messages, surtout venant de ma propre famille. Et du coup, j'ai arrêté du soir du jour.
Et donc, vous avez ressenti à ce moment-là une souffrance?
Bon, peut-être pas une souffrance.
Non, mais on se comprend. Non, mais en tout cas, ça vous a foutu un coup au moral, quoi, Greg.
De toute façon, c'est le royaume de la désinformation, c'est le royaume de l'immédiateté, de la réaction immédiate. Il n'y a aucun recul, il n'y a aucun esprit critique.
Emmanuel, c'est le royaume de la désinformation si tu suis des comptes qu'il ne faut pas suivre.
Il parle de gens de sa famille qui relayaient des infos.
Oui, bah ouais. Mais il faut suivre les comptes qui sont sérieux, et ça c'est un vrai travail de filtre.
Thierry, je suis d'accord avec toi.
Greg,
il est sur Facebook, et c'est des gens de sa famille. Tiens, regarde, t'as vu, il y a ça sur la SNCF.
Exactement.
Tiens, t'as vu ça. Au bout d'un moment, tu dis waouh, tu peux comprendre ça. C'est comme si moi. C'est comme si moi, je suis journaliste. Tu sais qu'on nous critique beaucoup les médias, et tant mieux. Hein, mais si moi, je me retrouve dans une soirée où il y a ma sœur, mon frère, un de mes meilleurs potes, le voisin avec qui je m'entends très bien, et que tous commencent à taper sur les journalistes, mais tout au long de la soirée, au bout d'un moment,
j'argumente,
mais tu comprends que ça peut te miner au bout d'un moment.
À chaque fois qu'on m'a sorti, à chaque fois que dans une discussion un peu sérieuse, on m'a sorti un truc en me disant j'ai lu ça, je lui dis quel compte, ouais. On regarde le compte, on regarde qui parle et d'où il parle, et on s'aperçoit que c'est une fake news. Il faut savoir qui on suit. Il faut faire très attention. Par exemple, dans le monde médical, avec toute cette histoire de vaccins, il y a des médecins qu'il faut suivre sur Internet et d'autres que c'est pas la peine de suivre parce que on sait qu'ils racontent beaucoup de bêtises. Alors, vous me direz, c'est notre boulot, nous, de journalistes, de filtrer. Voilà. Je suis d'accord avec toi.
Voilà.
Et je suis d'accord avec toi, Rémi. Quelque part, les réseaux sociaux, c'est un peu le café du commerce. Explosion 1000, parce que ce qui se disait au comptoir se dit maintenant dans l'espace public.
Et tu sais que ça s'agrège en
donc
plus.
Donc il y a beaucoup de bêtises.
Il suffit une critique, une deuxième. Tu vois ce que je veux dire? Vous travaillez à la SNCF, ouais, vous êtes journaliste, vous êtes des nuls. Il y en a un deuxième, troisième, quatrième, cinquième qui
c'est ça que c'est dur sur des semaines, des mois.
Je suis d'accord, je l'ai subi sur des mois, mais j'argumente, j'essaie d'argumenter et de rester zen et de prendre de la distance.
Parce que tu es un homme construit.
Il ne faut pas que ça vous touche.
Mais Greg.
Va dire ça à un ado.
Greg, depuis que vous avez quitté les réseaux sociaux, c'était il y a combien de temps?
Oh, ça doit faire un peu plus de 2 ans maintenant.
Donc, plus aucun réseau social?
Non.
Et comment ça se passe?
Très bien.
Plutôt bien. Tu arrives à vivre.
Mais on peut vivre sur les réseaux sociaux.
Non, mais évidemment. Non, mais je pose la question.
Merci,
Greg, est-ce que ça vous manque par moment?
Non, parce que il faut chercher l'information ailleurs et vraiment de la vraie information. C'est ce que disait Thierry. Là-dessus, je le rejoins.
Il y a aussi de la vraie information sur Twitter, mais elle est mêlée. En fait, là où vous avez raison, c'est qu'il y a aussi de la bonne information sur Twitter, mais elle est mêlée dans un maelstrom d'informations où il faut trier le bon grain de l'ivraie, et c'est très
marrant
difficile.
Que je discutais hier soir sans savoir qu'on allait avoir ce débat avec une amie qui a 10 ans de moins, seulement 10 ans de moins que moi, mais j'avais l'impression qu'un univers nous séparait. Cette fille, je l'adore, et elle me disait, je ne me renseigne que sur les réseaux sociaux. Je dis, mais comment tu fais? T'es pas abonné à telle, Voilà. Elle dit, mais non, mais c'est les comptes Twitter des journaux que tu me cites, ou des radios, ou des télés, mais c'est leur compte Twitter. Et j'ai entendu pour la première fois qu'on pouvait s'informer que par Twitter. Et je ne savais pas que ça existait.
Merci Greg d'avoir été avec nous. Greg qui nous appelait depuis Clermont-Ferrand. Mao.
On a Eti qui va dans le sens de Greg qui dit « Moi j'ai tout désinstallé il y a un mois et demi, j'ai 27 ans et depuis je suis beaucoup plus actif et moins procrastinateur. » Il a gagné du temps.
C'est bien.
Ah oui, c'est sûr, ça prend du temps.
Mickaël Stora est avec nous. Bonjour Mickaël Stora.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC. Vous êtes psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et auteur également de Réseaux sociaux aux éditions Larousse, qui est paru l'année dernière. Mickaël Stora, là on parle parce que c'est la dernière info de Tom Holland, l'acteur Tom Holland qui incarne Spider-Man notamment à l'écran, qui dans cette vidéo, on en parlait tout à l'heure avec Emmanuel, qui est très émouvante. Hein, c'est vrai que il est touchant. Une petite vidéo qui dure 3 minutes où il explique qu'il sent que sa santé mentale est menacée et qu'il décide de quitter les réseaux sociaux parce que il a l'impression de vriller, de ne plus avoir les pieds sur terre, que ce soit par trop de louanges ou trop de critiques insultantes. Est-ce que vous comprenez cette attitude?
Oui, alors déjà, petite précision, c'est pas les réseaux sociaux, mais ce sont, le titre du livre, c'est les réseaux asociaux.
Pardon. C'est mieux.
C'est vachement bien.
Je suis allé trop vite, et les réseaux, entre parenthèses, asociaux ensuite, oui. Les réseaux asociaux. Est-ce que vous comprenez,
qu'on puisse. Il y a plusieurs éléments. D'abord, peut-être, comme vous l'avez évoqué, une sorte d'aller-retour entre des louanges, des likes, des retweets, de je ne sais quoi qui viennent un petit peu flatter, gonfler le narcissisme de tout un chacun. Les acteurs, disons les choses, ont cette fragilité narcissique de base avec laquelle ils ont du talent, ils travaillent aussi. Et donc, en s'exposant en dehors des critiques d'un film, où ils sont toute une équipe, ils se retrouvent à être visés en tant que personne. Et c'est le risque. Et on pourrait se dire que plus la personne est fragile narcissiquement et plus ses attaques vont être vécues comme quelque chose de terrible, quelque chose qui pourrait les détruire. Et c'est vrai qu'on voit à quel point certains influenceurs qui produisent des choses, donc qui créent des choses, sont peut-être moins touchés que ceux qui s'exposent simplement parce qu'ils sont eux. On a pu voir avec Léna Situation ou d'autres, comment est-ce que finalement il y a déjà cette fragilité. On l'a vu déjà avec la télé-réalité. Certaines personnes étaient déjà très fragiles. Mais ce qui est vrai, c'est que oui, vous avez parlé du comptoir, du bar, et on retrouve un peu cette forme de désinhibition propre aux gens qui ont bu aussi. Vous êtes au fond à l'abri du regard de l'autre, mais aussi de certaines instances qui, toute la journée, nous obligent à être dans une forme d'hypocrisie sociale que nous, en psychanalyse, on appelle le fameux surmoi ou l'idéal du moi. Et c'est vrai que tout ça vole en éclats, et la question de l'éthique et de l'empathie est un vrai problème au sein même des réseaux sociaux et d'Internet.
Je le disais, vous êtes psychanalyste, donc j'imagine que vous consultez, vous avez des patients qui viennent vous voir. Vous avez déjà eu, vous voyez souvent des personnes venir vous voir en vous disant, voilà, je suis sur les réseaux sociaux, j'arrive pas à m'en défaire, mais j'en souffre.
Non, jamais. J'ai jamais eu ce. J'ai eu des. Alors bon, comme j'ai créé une école, disons, une prise en charge pour des jeunes qui souffrent d'addiction aux jeux vidéo en ligne, qui est la seule addiction reconnue scientifiquement par l'OMS. Mais j'ai eu par contre des personnes, par exemple, qui tentent de faire des deuils amoureux et qui font du stalking et autres, qui deviennent, qui se mortifient.
Non, mais j'ai eu auprès de moi effectivement une personne qui a vécu ça, qui est une déception amoureuse, enfin bref, qui s'était fait quitter et qui a continué à suivre son ex, mais pas par souci de vengeance, mais pour voir ce qu'elle devenait. Et puis un jour, elle a rencontré quelqu'un d'autre et il se faisait du mal. On se fait du mal, quoi.
Oui, alors c'est des phases de deuil, et c'est vrai qu'on voit à quel point, dans ce type particulier de problème, les gens vont continuer. C'est vrai que cette forme de mortification, d'autoflagellation, fait partie d'un processus qui normalement est imaginaire. Mais là, maintenant, il y a une sorte de preuve par l'image.
C'est terrible.
C'est terrible. J'ai par contre plutôt des adolescents, eux, d'ailleurs, qui ont des problématiques, assez banalement, d'image du corps, de construction de soi, et qui suivent des influenceuses et qui sont véritablement piégées. Par le fait qu'elles se sentent décidément pas aussi belles. Et ça rejoint un petit peu cette forme de philosophie d'ADN d'Instagram et autres qui prônent finalement des images tellement idéalisées qu'elles viennent nous tyranniser.
Mais alors, ce qu'il faudrait.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, le principal danger, plus que l'addiction, c'est justement cette vie rêvée qu'on offre aux gens et dont certains adolescents en font un modèle absolu et souffrent de ne pas atteindre éventuellement ce modèle.
Oui, c'est peut-être une des pathologies les plus lourdes, et avec une preuve très concrète, puisque maintenant, ce sont les 18-30 qui font le plus appel à la médecine et à la chirurgie esthétique.
Terrible.
Donc on voit, c'est un vrai effet avec une sorte de. Vous savez, maintenant, ces jeunes femmes qui viennent dire « voilà, j'aimerais ressembler non pas à tel ou tel acteur, mais à moi, filtré ». Et on voit à quel point il y a des vrais dégâts. Et d'ailleurs, vous avez eu Frances Haugen qui a fait un coming out par rapport à Facebook, une sorte de lanceuse d'alerte, et qui a montré les dégâts dramatiques que ça a sur la jeunesse.
C'est quoi la solution, Michael Stora? Ça serait parce que c'est vrai qu'on est les jeunes se retrouvent sur les réseaux sociaux, mais les jeunes et les moins jeunes, c'est encore récent, les réseaux sociaux. Il y a eu aucune éducation, il n'y a pas d'éducation. Est-ce qu'il faudrait éduquer au numérique?
Oui, alors c'est très intéressant cette question de l'éducation numérique, parce que pour le moment on est encore un peu dans des vieux combats du style faites attention à vos données, ce qui est important aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension très irrationnelle. Comment aider des adolescents à pouvoir prendre du recul sur cette question de l'idéal? Moi, ce que je perçois beaucoup chez les ados, je trouve ça plutôt intéressant, c'est le second degré. cette forme d'auto-ironie qui, comme vous le savez, Freud avait écrit comme c'est une sorte de pied de nez à un idéal qui nous tyrannise. Maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de retournements de ces pulsions agressives contre le corps propre. Hein, de plus en plus de cas de clarification. La France est redevenue un peu un des champions en termes de tentatives de suicide des ados. Donc c'est vrai que, je n'ai pas envie de dire, mais nous sommes aussi dans une société où les réseaux sociaux sont comme un relais, une caisse de résonance de ces idéaux implacables, où perdre ou autre n'est plus du tout acceptable. Et je pense qu'il faudrait remettre un peu au goût la question que c'est pas parce que l'on... C'est aussi en se trompant qu'on apprend, c'est aussi en perdant qu'on apprend à gagner. C'est peut-être une vraie philosophie, mais c'est vrai que dans les... Ce que je trouve intéressant, je terminerai là-dessus peut-être, mais c'est que au collège maintenant et lycée, on commence à apprendre aux jeunes à coder. Ce qui est très intéressant, parce que c'est déjà une manière de pouvoir comprendre ce qu'est un algorithme, comment il nous piège et comment est-ce qu'on peut devenir un peu plus intelligent, comme à une époque, l'éducation à l'image, où on nous montrait comment un film était fait, qui nous permettait d'avoir un espace nécessaire pour peut-être
prendre du recul.
Se poser la question de ce qui est vrai ou pas vrai.
Merci beaucoup, Michael Stora, d'avoir été avec nous, psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et auteur de Réseaux asociaux aux éditions Larousse, un livre qui est paru l'année dernière. Paul nous rejoint au 32-16. Bonjour, Paul.
Bonjour à tous.
Bienvenue.
Peut-être passer après Michael, c'est pas facile. Hein,
il était très intéressant, Michael. Hein, mais Paul, je suis sûr que vous avez votre témoignage aussi. Et tous les témoignages sont intéressants. Vous habitez Montpellier, c'est ça, Paul ?
C'est ça, ouais, c'est ça.
Ah, intéressant. Je vois que vous êtes jeune, je vous donne votre âge, hein, 28 ans. Et ouais. Community manager.
Exactement.
Bon,
exactement.
Donc les réseaux sociaux, c'est votre train-train quotidien.
C'est mon quotidien, exactement. Ouais. Mais même avant ça, j'ai été sur les réseaux sociaux depuis tout petit, depuis tout jeune. Déjà sur les blogs, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, quand même, les réseaux sociaux, même quand j'avais entre 12 et 15 ans.
Ouais, d'une radio connue, qui était très partagée par les jeunes.
Donc,
on regarde, elle est trop jeune, elle ne connaît pas.
Je suis un peu de l'avis de Thierry Moreau, en fait. Encore une fois, chacun peut se façonner ses réseaux sociaux. C'est ultra personnalisé, en fait, les réseaux sociaux. Donc, il suffit de s'abonner au compte que l'on veut suivre. Mm-hmm. Et derrière, on façonne son fil d'actualité, Facebook, Instagram, Twitter, comme on le veut. Moi, je sais que j'ai assez de recul pour avoir une consommation de réseaux, des réseaux sociaux ultra saine, mais je peux comprendre évidemment que certains n'ont pas ce recul-là ou pas assez en tout cas, et puissent du coup mal interpréter les choses et qu'après ça ait énormément de dérives. Là, il n'y a aucun souci. Mais encore une fois, je trouve que si on veut, on peut façonner en tout cas ces réseaux sociaux et faire en sorte de s'abonner aux actus. Moi, je sais que l'actualité, vous l'avez dit dans votre émission, sur l'actu, je m'informe à 95% sur les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire que je m'informe par des fake news ou quoi que ce soit.
Ah non, vous allez sur rmc.fr, sur l'application RMC.
Il y a le fait aussi d'être interpellé sur les réseaux sociaux, d'être
harcelé.
Je pense qu'une règle qu'il faut, c'est ne jamais répondre. Débarques comme moi il y a un an. Hein.
Paul.
Moi, nous, en tant qu'inconnus, je ne suis pas interpellé par des...
Non, mais attention, Paul. Vous le savez comme moi, aussi bien que moi. Il suffit qu'un jour, vous donniez votre avis sur un débat d'actualité. Imaginons que vous parliez des antivax ou du vaccin contre la Covid. Connu ou pas connu, ça va partir très vite. Hein.
Alors, je suis d'accord. Une règle. Moi, je réponds aux gens qui sont argumentés, c'est-à-dire où je peux avoir un débat. Si ça devient non argumenté et injurieux, je coupe court. Et tu disais tout à l'heure, les gens qui subissent un peu les harcèlements, il suffit de rentrer des mots-clés qui masquent les conversations. Tu masques les conversations qui contiennent le mot-clé que tu ne veux pas avoir dans ton fil d'actualité. Et comme ça, tu n'es pas emmerdé par les gens qui veulent éventuellement te pourrir. C'est très simple.
Il faut faire des cours d'éducation aux réseaux sociaux.
Tu es au fait des réseaux sociaux.
Je suis un pauvre, moi. J'ai 57 ans.
Et alors
Non, mais c'est non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une question.
Non, mais tu t'es intéressé à la question, tu as étudié la question, tu as appris, oui. Voilà.
Donc, mais comme
faut,
tout.
Oui, mais il faudrait que tout le monde.
Oui.
Parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux, donc il faudrait.
D'accord. Et juste pour vous dire, dans l'école où, primaire où il y a mon fils, c'est un groupe où il y a une primaire, un collège, un lycée. Ils organisent une fois par an une réunion pour les enfants auxquels les parents peuvent s'adjoindre sur les réseaux sociaux.
Très bien.
Qui est une réunion d'explication et de mise en garde. Le but n'est pas d'interdire, évidemment. Et j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais je trouve ça absolument super comme initiative. J'espère que c'est fait dans beaucoup d'écoles.
Je suis pas sûr. Paul, merci d'avoir été avec nous depuis Montpellier. Aurélie nous rejoint. On est à Lunel dans l'Hérault, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On est à côté de Montpellier.
À côté de Montpellier, bah justement, on reste dans le même département. Aurélie, je peux donner votre âge ?
Oui, vous pouvez, c'est pas tabou.
Non, mais vous avez 40 ans, voilà, c'est pour situer. Donc, utilisatrice des réseaux sociaux ?
Oui.
D'accord.
Depuis longtemps, depuis Facebook, depuis 2005.
D'accord.
Pas encore le boom en France.
Ok.
Et Twitter depuis 2010 au moins.
Est-ce que vous sentez menacée par votre utilisation des réseaux sociaux ?
Pas du tout. Je me sens pas menacée dans le sens où, que ce soit dans mon perso ou dans mon pro, nous, on n'est pas nés, ma génération n'est pas née avec Facebook, on n'est pas nés, on trouvait Copain d'avant super, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Ah, si, bien sûr.
Moi, j'en suis toujours sur Copain d'avant. Hein.
Voilà, donc juste pour situer, on a commencé avec ça, les messageries, c'est MSN, on balbutiait, on n'est pas nés comme les jeunes aujourd'hui qui ont déjà les règles Facebook, les codes Insta, les mots de passe Snapchat, etc. Nous, on a composé ce qu'on avait et arrivé un moment dans mon cursus perso réseau social, j'ai dit présentement là je ne vais prendre que les gens que je connais dans la vraie vie sur mon Facebook. Je me suis imposé des règles en fait, parce qu'effectivement sinon ça déborde et on peut pas en vouloir aux gens parce que la société déborde tout le temps partout. Mais disons que si on n'a pas une hygiène de vie réseau social entre guillemets, moi j'ai pas beaucoup d'amis sur Facebook dans mon perso. Dans mon pro, c'est différent. Maintenant, j'ai fait une formation marketing digital pour l'immobilier et je réponds aux haters comme vous parce que j'essaye de dépoussiérer un peu la profession. Donc, c'est différent. Mais disons que dans ma vie, j'essaye au moins d'avoir chaque personne qui est dans mon Facebook, j'ai leur numéro de téléphone. C'est une règle intense parce que pour moi, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se parler pour les réseaux sociaux. On n'a pas besoin. C'est pas la vraie vie.
C'est juste un plus, quoi.
C'est un plus, c'est juste une façon de communiquer. Vous voyez, au lieu de recevoir 20 000 mails avec une connerie par mail, ça permet juste d'aller plus vite. Mais en soi, ce que je veux faire avec tout ça, c'est qu'à chaque personne qui est dans mon perso, si on est dans ma vie, on est dans mon réseau social. Si on n'est pas sur mon réseau social, c'est qu'on n'est pas dans ma vie. À part pour le professionnel, parce que c'est une approche qui est différente. Et c'est ça que je ne comprends pas avec le jeune qui a laissé tomber. Il est acteur, le gars. Il est obligé d'être sur les réseaux sociaux.
Bah oui.
Moi, je pense que
obligé,
il a fait une erreur. Et à mon avis, il serait bien d'avoir des personnes qui sont là pour l'entourer et lui apprendre justement à gérer tout ça. Parce que là, il prive son audience de sa présence parce qu'il ne gère pas, en fait. Et ça, c'est dommage.
Merci pour votre témoignage, Aurélie. Très pertinent, hein, ce que nous dit Aurélie, qui nous appelait depuis le Lunel dans l'Hérault au 32-16. On vous a posé la question, seriez-vous prêt à vous passer des réseaux sociaux pour préserver votre santé mentale? Est-ce que vous vous sentez atteint mentalement par l'utilisation des réseaux sociaux? Juste, si un jour vous sentiez que ça va pas, est-ce que vous seriez prêt à vous en passer de ces réseaux sociaux? La réponse?
Non. Alors, la réponse, c'est oui à 80%. Bravo les gens.
Ouais, il y a quand même 20%
après,
qui n'y arriveraient
pas. Est-ce que c'est complètement honnête?
Tu en as quand même 20% qui n'y arriveraient pas.
Non.
C'est-à-dire que même si ça n'allait pas, ils n'arriveraient pas à s'en passer. Donc, il y a du boulot, je pense. Dans un instant, ce seront les immanquables de Mao Bécard-Granier. On va parler notamment du nouveau métier du jour. On va parler de sorcier en Bretagne. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC. Parfois, ça nous arrive à tous, on loupe une actualité, mais pas avec Mao Bécard-Granier.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Les immanquables de Mao, et on commence, Mao, par le nouveau métier du jour.
Officiant laïque de mariage. Alors ça ne vous dit rien, c'est normal, c'est un tout nouveau métier, ni maire, ni pasteur. C'est celui qui unit les couples au cours d'une cérémonie laïque. Oui, car de plus en plus, les jeunes mariés ne passent pas par la case église ou autre édifice religieux, mais veulent quand même une cérémonie à leur manière. Alors cette activité se développe. Suffit de taper officiant laïque sur Google, on tombe sur de nombreux services. Le prix de la prestation, environ 1000 euros en moyenne pour 30 à 50 heures de travail. C'est pas si cher entre le premier rendez-vous et la cérémonie. L'officiant laïque apprend à connaître les mariés, organise la cérémonie et écrit les discours. Une association de consultants en mariage est née. Son objectif, c'est faire entrer au répertoire national de certification professionnelle cette nouvelle activité.
Thierry.
Ah, je trouve ça génial. J'ai assisté à un mariage il y a pas très longtemps, au début du mois de juillet, où c'était deux garçons qui s'unissaient. Mmh. Et ils ont fait en toute intimité la mairie la veille. Et le lendemain, il y avait une fête avec, et j'ai assisté pour la première fois à une cérémonie laïque avec un officiant. Alors c'était un des amis, donc il n'était pas rétribué. C'était une amie d'ailleurs du couple qui avait fait cette cérémonie. Et j'ai trouvé les mots à la fois touchants, les discours étaient empreints de profondeur, c'était vraiment très fort, et ça a surpassé de beaucoup de mariages, je dirais traditionnels.
L'église avait des soucis à se faire, hein.
Franchement, j'ai trouvé ça. J'ai été ému aux larmes dans ce mariage, et je suis pas souvent ému aux larmes. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Alors là, c'était pas leur métier, mais c'était vraiment une cérémonie laïque, et j'ai trouvé ça exceptionnel.
Emmanuel.
Alors, c'est marrant parce que c'était pas le même mariage que toi, mais j'ai vécu la même chose. Et c'était pareil, c'était une amie de la famille, c'était pas quelqu'un, je ne savais pas que ça se professionnalisait. Elle avait fait ça très très bien, en l'occurrence, avec beaucoup d'implication. Et c'était une très très jolie cérémonie, tout à la gloire des mariés, parce que c'est le principe.
Si tu commences à rêver des secrets.
Je découvre que ça se professionnalise, pourquoi pas. Par contre, quand tu dis, je peux pas être d'accord avec toi, Rémi, quand tu dis l'église a du souci à se faire, ça n'a juste rien à voir. Ces gens qui font là, ce serait pas pour autant marié à l'église. Quand on se marie à l'église, enfin à condition que ce soit pas un mariage touristique pour avoir des jolies photos de robe de mariée à l'église.
Ce que disait Thierry,
moi j'ai déjà...
Je respecte, moi je suis de tradition catholique, comme on dit, je suis pas forcément croyant, un petit peu pratiquant de temps en temps, voilà, peu importe, je suis de tradition catholique. Il m'est déjà arrivé d'assister à des mariages religieux, donc peut-être que je respecte en tout cas l'église, mais je respecte voilà cette institution. Mais il m'est arrivé d'assister à certains mariages par des prêtres, je me disais mais le prêtre n'a fait aucun effort.
C'est ça.
Mais c'est vrai. Zéro.
Voilà.
Ça arrive.
Et j'ai vu d'autres mariages où on sentait que le prêtre était impliqué, qu'il avait discuté avant avec les mariés.
Mais c'est pas le but.
Je ne demande pas que ce soit un spectacle, mais un minimum. Tu comprends ce que je veux dire ?
Je comprends tout à fait. Mais tu sais, c'est très souvent en fonction de l'implication des mariés dans leur propre cérémonie.
C'est aussi la personnalité de l'officiant.
Bien sûr, il y a les personnalités de l'officiant qui va jouer. Mais malgré tout, tu as des mariés qui arrivent là parce que ça fait plaisir à la grand-mère et que ça fera joli sur les photos et qu'une église, quand même, c'est joli, une église. Et il y a beaucoup de monde qui peut rentrer, etc., etc. Parce que c'est la tradition qui se pose même pas la question. Quand tu investis vraiment ton mariage, mais on parle de l'église, mais ça peut être ailleurs, dans un autre bâtiment, une autre religion, et que tu investis vraiment, que vraiment tu choisis tes textes, tu choisis tes chants, et que tu dis au curé, au mec, comme tu dis, nous, voilà qui on est, voilà comment on s'est rencontrés, voilà quelle est notre histoire. Il est un peu plus baigné quand même dans les choses, mais l'un ne remplace pas l'autre. Tu peux faire une belle cérémonie religieuse, et puis derrière, une belle cérémonie comme celle à laquelle tu as assisté, Thierry, ou moi aussi. L'un ne remplace pas l'autre. Dans un cas, il y a un sacrement. Dans l'autre, il y a autre chose qui n'est pas de l'ordre du sacrement. Ça, c'est autre chose.
Allez, la déception du jour.
Celle des écologistes qui espéraient voir l'huile de friture devenir un carburant comme un autre. Une disposition qui avait été votée par le Parlement dans le cadre du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Mais elle vient d'être retoquée par le Conseil constitutionnel. L'idée, c'était donc de transformer un déchet en ressource. Car aujourd'hui, ce n'est pas légal de rouler à l'huile de friture, même si beaucoup le font déjà. La mesure, en fait, n'a pas été retoquée sur le fond, mais plutôt sur la forme. Les sages ont jugé que cet article n'avait pas de lien avec le texte sur le pouvoir d'achat. Les écologistes ne baissent pas les bras. Ils vont donc attendre prochain projet de loi finance en 2023 pour le replacer. Les Verts rappellent que 10 litres d'huile usagée correctement retraitée peuvent donner 8 litres de carburant, et un carburant beaucoup moins polluant, jusqu'à 90% moins de gaz à effet de serre qu'un diesel.
Je peux vous dire que dans le Nord, on est déçus. Il y avait un marché qui s'ouvrait là, mais
ça va venir. En plus, le problème, c'est que c'est un faux débat parce que voilà. Les écolos se plaignent. C'est juste une question technique parce que ce sont souvent des jeunes députés. On a une nouvelle génération de gens qui sont arrivés à l'Assemblée nationale, que ça soit NUPES, écolo,
qui doivent se former,
voire Rassemblement national aussi d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des nouveaux députés de ce côté-là, et qui doivent se former au rouage. La démocratie, ça a ses règles, ça a ses lois. Le Conseil constitutionnel, lui, il est là pour être le garant de la Constitution. Ça rentre pas dans la case, ça rentre pas dans la case. Après, ils vont s'y reprendre à deux fois et ça passera et ce sera très bien. Si on peut rouler à l'huile de friture dans le Nord et sentir la baraque à frites quand je suivrai la voiture de Rémi Barret, je serai très heureux.
Ça donne faim.
Il y a des associations dans le Nord qui sont très très actives. Ouais. Je suis sûr, rassure-toi, ils vont y arriver sur le retraitement des huiles de friture. Ils vont y arriver et ce sera une très très bonne nouvelle pour tout le monde, à condition que nos voitures, c'est certains types de voitures, ça marche pas sur toutes les voitures.
On parlait du Qatar, on parlait des Émirats et tout ça. Mais peut-être que le nouveau pays de l'or noir, ça sera pas un or noir, ça sera nous,
voilà.
Dans le Nord.
Bien. Laissons rêver Thierry.
L'école du jour.
C'est bientôt la rentrée à Poudlard. Alors, tout le monde connaît l'école de sorcellerie dans laquelle Harry Potter a fait ses classes. Et figurez-vous que cette année, elle va ouvrir en Bretagne. Et plus précisément dans un château, le château de Rocher-Portail, au nord de l'Ille-et-Vilaine. C'est le propriétaire de cette demeure qui a eu l'idée de recréer l'imaginaire de l'école de sorciers pour en faire un lieu touristique. Seulement, certains petits détails changent. Les noms des maisons évoluent, pas de Gryffondor ou de Serpentard, mais des noms de vraies familles françaises d'époque, comme Fauve d'or ou Cerf de lune. Au programme, des comédiens en costume, des courses de balais volants, des effets spéciaux. Et comme pour toutes les écoles, l'ouverture des portes et de la billetterie aura lieu début septembre.
C'est de la copie.
Non, c'est que d'abord la tradition. Je te rappelle qu'en Espagne, en Bretagne, il y a toujours une tradition avec la forêt de Brocéliande,
un peu mystique,
de trolls, de mystiques, voilà. De druides, ouais. Etc. Moi, j'étais en Vendée, il y avait le château de la Fée Mélusine. On m'a raconté plein d'histoires quand j'étais gamin sur la Fée Mélusine. Je trouve
c'est
ça très bien.
C'est elle qui se prenait sur les remparts la nuit, pas
oui, entre autres. Ouais. Mais je trouve ça plutôt bien si en plus ça peut faire venir des gens dans cette région. Alors évidemment, on va dire c'est touristique, il y a la billetterie, c'est mercantile, tout ça. Si ça peut rendre des touristes intelligents, cultivés en les faisant venir dans cette région, je trouve que c'est une très très bonne idée.
Et puis c'est pas une copie parce qu'il a quand même prévenu la licence Harry Potter et c'est pour ça qu'il n'a pas eu le droit de reprendre les quatre noms des quatre familles, Gryffondor, Serpentard, etc. Poudsouffle, il m'en manque une. De la contrainte est née la créativité puisqu'il est allé chercher, comme tu le disais Mao, des anciennes familles du château et ça donne des très très beaux noms. Cerf de lune, c'est magnifique.
Hein. Oui.
Ils auraient pu être créés, inventés finalement. Ouais,
oui. Exactement. Après, il prend un concept et qui marche. Il applique ça à un château que ça va faire vivre. Ça va permettre peut-être de continuer de restaurer, que sais-je. Et puis, si les gens ont envie de payer pour ça. Parce qu'en fait, tu viens passer une soirée au moment d'Halloween, de la Toussaint. Oh là là, et c'est moi qui fais ce lapsus. et d'Halloween, donc.
On reste chez les Celtes.
Oui, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Hein, tu viens payer pour ta soirée. Tu reçois. C'est pas la chouette de Harry Potter qui te l'amène, Edwige, mais tu reçois quand même ton invitation. Et les gamins, ils vont être dingues de ce truc-là. Hein.
Enfin, moi, je vais penser sur le mien. Tu payes pas la redevance à la licence, donc c'est tout bénef. C'est parfait.
C'est ça.
Exactement. La recommandation du jour.
Cet hiver, et on en parlait en début d'émission, il faudra baisser le chauffage de 2 ou 3 degrés. C'est la recommandation du commissaire européen au marché intérieur. Son idée, en fait, c'est de nous faire participer à un effort collectif pour aider l'Union européenne à atteindre son objectif de réduction de la consommation. La Commission européenne exige que les États membres réduisent de 15% leur consommation entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023 par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Une manière pour l'Union européenne de se préparer à d'éventuels arrêts de livraison des gaz russes dans un contexte géopolitiquement très tendu depuis le début de la guerre.
Bah Thierry, t'as effondré.
Je trouve que c'est de la démagogie pure. D'abord, j'aimerais savoir combien seront chauffés les locaux de la Commission européenne. Parce que,
priori, c'est comme on disait tout à l'heure, Thierry. Ah oui, bah alors moi, je.
Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais.
Est-ce que je pourrais juste terminer?
Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
C'est du népotisme.
Thierry, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand, tu sais, quand on parlait est-ce qu'on va changer notre comportement face au réchauffement climatique?
Alors.
Et toi-même, tu t'en.
Justement, je voulais terminer là-dessus.
Bon, alors vas-y.
Je serai le premier, moi, à baisser de 1 ou 2 degrés et de mettre un pull plutôt que de monter le chauffage. Évidemment, le seul problème, c'est que Thierry Breton, il oublie qu'une partie des Français fait déjà cet effort depuis des années, et qu'il y a des gens qui ne se chauffent pas.
Est-ce que tu connais?
Donc, dire aujourd'hui aux gens sur un plateau télé ex abrupto, eh bien, les gars, faut baisser 3 degrés.
Est-ce que tu connais la moyenne de température des logements? Ouais, 22. des logements en France l'hiver. C'est 22 degrés.
Oui, non mais alors.
C'est une moyenne,
une éducation à faire, mais je peux te dire que je connais, moi, dans mon entourage, et je pense que beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent actuellement, leur dire vous baissez de 3 degrés alors qu'ils n'arrivent pas à chauffer toutes les pièces de leur maison.
Je sais bien, mais j'en connais aussi, je suis en autour de
maladroit.
Toi aussi,
maladroit.
Chez qui tu rentres l'hiver et qui sont en t-shirt et que tu rentres chez eux.
J'aimerais bien que les milliers de fonctionnaires de la communauté européenne s'appliquent aussi la baisse de 3 degrés.
L'un n'empêche pas l'autre.
Je suis d'accord avec toi.
Tu peux toujours courir, franchement. Je suis d'accord avec toi. Et en même temps, il y a plein de gens qui ne le font pas encore. Toi et moi, on le fait. Moi, j'avais déjà dit à l'hiver dernier que j'avais arrêté le chauffage dans la voiture, qu'on avait récupéré une couverture et que les enfants, le matin, pouf, sous la couverture pour économiser du gazole. Et on va venir vers ça. Mais il y a tout un tas de gens qui se sentent au-dessus des lois, qui gagnent certainement plus que toi et moi réunis.
Pas forcément.
Il y en a plein, je t'assure.
Mais ce n'est pas forcément des gens qui gagnent plus.
Parce qu'eux, ils ont les moyens de subir les hausses de chauffage.
On est d'accord, mais toi comme moi, on est déjà allé chez des amis qui gagnent pas forcément des 10 000 euros par mois. Et tu vois les gamins en t-shirt et
lumières allumées n'importe où.
Certains vont me dire, ils font ce qu'ils veulent de leur argent, mais c'est pas un problème.
Mais c'est pas leur argent, c'est ça.
C'est pas un problème de leur argent. Là, on est au-delà de ça.
C'est un problème de solidarité internationale quand un de tes amis
se chauffe à 23 degrés en plein hiver, que ses gamins sont en t-shirt. Eh ben, d'accord, il dépense son argent, mais ça nous concerne aussi tous.
Bien sûr.
Voilà, c'est ça le problème. Bon, bref.
On va encore se faire tacler sur les réseaux sociaux.
Ouais. La réécriture du jour.
C'est celle de l'histoire de Jeanne d'Arc. Dans une semaine, dans un prestigieux théâtre londonien, une nouvelle pièce de théâtre honorera la vie de Jeanne d'Arc. Une Jeanne d'Arc pas tout à fait comme les autres, puisqu'elle est non-binaire. La dramaturge Charlie Joséphine, elle-même non-binaire, explique que Jeanne d'Arc, à son époque, transgressait déjà les genres. Mais certaines féministes britanniques s'indignent. La rendre non-binaire, c'est effacer aussi son combat en tant que femme, sans conséquence pour la direction du théâtre qui défend cette relecture et qui explique le théâtre, c'est la possibilité de monde autre.
Je sais plus quel grand dramaturge disait le théâtre, ce n'est pas la vie, c'est plus que la vie. Et c'est une phrase que j'adore parce qu'au théâtre, on n'est pas obligé de coller à la réalité historique. Mais là, en l'occurrence, Jeanne d'Arc, qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on y croit pas, peu importe. Jeanne d'Arc, c'était une petite bergère de Lorraine, illettrée de 18 ans, qui a franchi tous les codes de la pauvreté, de son statut de femme, de son statut de bergère, pour monter sur un cheval, prendre une armure et aller voir Charles VII. Essayer de faire lever le camp aux Anglais. Et qui a fini brûlée à cause de ça. Mmh. Et finalement, c'est complètement renverser le sens de l'histoire que de faire ça. Et Dieu sait que j'ai rien contre ce genre d'initiative. Mais là, sur Jeanne d'Arc, c'est mettre à terre tout ce qu'elle a essayé de faire. Et je trouve ça dommage. Après, le Théâtre du Globe, c'est pas n'importe quel théâtre à Londres.
Ce qu'elle a essayé de faire, je suis pas sûr qu'elle ait la revendication féministe à l'époque.
Non, je crois pas. Mmh. Mais le Théâtre du Globe, c'était le théâtre de Shakespeare, qui est sur les rives de la Tamise, un très très beau théâtre. Et alors, on s'appuie sur Shakespeare, qui est pas là pour se défendre, pour dire ouais, mais Shakespeare, il aurait vachement aimé ce truc-là. J'en sais rien, on n'a qu'à aller lui demander à Shakespeare.
Thierry.
Puis à Jeanne, tant qu'à faire.
C'est une pièce à proprement parler, donc moi je critiquerai pas une œuvre.
C'est pas la première fois que ça se fait.
C'est une fiction.
C'est une fiction, donc j'ai pas de problème avec ça. Introduire de la non-binarité dans l'histoire de Jeanne d'Arc me paraît un peu compliqué. En plus, elle se trompe, cette jeune femme, parce qu'elle dit que Jeanne d'Arc était issue de la classe ouvrière. Non, elle était issue de la classe paysanne, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Pareil, ouais.
Donc, alors elle réécrit comme elle veut. Ça n'a aucun intérêt.
Elle fait venir des gens comme elle peut à sa pièce.
Ça fait parler. La preuve, c'est qu'on en parle.
Voilà.
Ouais, exactement.
Au-delà de la Tamise.
Bon, après, il faudra aller jusqu'en Angleterre ou à Londres pour voir la pièce.
Au moins
qu'elle ait un succès international.
Mais c'est pas nouveau, ça s'est fait plein de fois.
Allez, dans un instant, il est bientôt 14h50, on va jouer ensemble, comme tous les jours, sur le quiz d'Estelle. On peut rappeler, Mao, ce qu'il y a gagné.
Ce qu'il y a gagné aujourd'hui, c'est un tote bag RMC et le fameux jeu, le Milborn.
Et surtout, ce que vous avez à gagner, c'est de jouer avec Thierry Moreau ou de jouer avec Emmanuel Dancourt, de répondre à des questions d'actualité dans une bonne et franche camaraderie, quoique des fois ça chauffe un peu. C'est dans un instant, c'est le quiz d'Estelle sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle midi.
Rémi Barré.
Estelle midi tous les jours, midi 15h sur RMC. On ne va pas attendre plus longtemps. Tout de suite, on joue ensemble.
RMC. RMC, Estelle Midi.
Le quiz d'Estelle.
Vous connaissez le principe, une série de questions sur l'actualité. Aujourd'hui, ça va être simple parce que vous avez le choix entre Thierry et Emmanuel pour jouer avec vous. Donc, vu qu'il y a deux candidats, bah, ils vont jouer tous les deux. À la fin, bah, celui qui reprendra le, qui marquera le plus de points pourra gagner Mao, on le rappelle, le jeu de Milborne.
Exactement, le jeu de Milborne et un
RMC. Et là, j'ai une petite difficulté parce que j'ai deux candidats qui s'appelle Mathieu et Mathieu.
Salut Mathieu.
Salut Mathieu.
Salut. À vous deux. Allez, je commence par Mathieu de Limoges. Bonjour. Salut. Mathieu.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC. Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Je peux vous demander votre métier, Mathieu ?
Militaire.
Militaire. Très bien. Armée de terre, marine ?
Armée de terre.
Armée de terre. Et l'autre Mathieu nous appelle de Comines, de par chez moi, dans le Nord. Salut Mathieu.
Salut Rémi.
Bienvenue dans Estelle Midi. Vous faites quoi dans la vie, Mathieu ?
Kiné.
Très bien. Alors, ce qu'on va faire, parce que on va vous poser une série de questions pour vous différencier tous les deux, en plus que vous êtes deux hommes et vous avez donc le même prénom, on va ressusciter, on le disait avec Thierry juste avant, on va ressusciter Interville. Donc, on va faire Limoges face à Comines.
Vas-y, je fais générique là.
Limoges face à Comines. Je vous explique, Mathieu de Limoges. Donc, avant de répondre à la question, vous direz Limoges et vous pourrez répondre ensuite. D'accord ?
D'accord.
Et Mathieu, Comines, avant de répondre. D'accord ?
Ok, très bien.
Comme d'habitude, je vous demande le premier, donc Mathieu de Limoges, vous voulez jouer avec qui ?
Emmanuel.
Emmanuel.
Merci Mathieu. Bien,
ça sera l'équipe, donc Limoges, Emmanuel et donc Comines, Thierry. On est d'accord ? Tout le monde est prêt ?
Prêt.
Prêt.
Allez, prêt.
On y va. Première question, c'est une question auditeur, c'est donc uniquement nos deux Mathieu qui peuvent répondre. Hein. Dans quel pays européen les protections hygiéniques sont désormais...
Comines. L'Écosse.
Bien. Un point pour Comines dans le Nord.
Bravo Mathieu.
C'était quoi la question ?
J'ai l'impression de jouer
à Interville. C'était quoi la question ? Les protections hygiéniques gratuites pour toutes les femmes
pour
en Écosse.
Pour toutes les femmes en Écosse.
Je vais aller vivre en Écosse. Ouais.
Depuis lundi, les tampons et serviettes périodiques sont gratuites pour toutes les femmes. Une mesure fondamentale en termes d'égalité et de dignité d'après le gouvernement écossais.
D'accord.
Ça peut donner à réfléchir à d'autres pays, notamment au nôtre. Hein. Ouais. Question culture générale, désormais tout le monde joue. À qui doit-on cette musique ?
Ravel.
Ravel.
Le boléro.
Maurice Ravel. Et c'est Limoges qui égalise face à Comines.
Ah. On est à un match de basket. En fait.
Un partout. Question cinéma, série. Selon un classement réalisé par le site Allociné, quelle est la meilleure série de tous les temps ?
Stranger Things ?
Non.
Soprano ?
Non.
Limoges ?
Ouais.
Game of Thrones ?
Non.
Ah.
Dallas ?
Non.
On peut pas Dynasty quand même, hein. Starsky et Hutch.
Star Trek ?
Mais c'est un vieux truc ? C'est un truc ou c'est un truc récent ?
De l'amour ?
Je peux vous dire que ça commence par un B. Il y a deux
pas
B.
Pas si vieux.
Pas si vieux. Better Call Saul.
Ah, Breaking Bad.
Breaking Bad. Bravo, Thierry. Comines. Prend
la tête.
La tête. 2-1 pour Comines face à Limoges.
Il se prend pour Guy Lux.
Quelle célèbre chanteuse a été. C'est une question musique.
Sans blague.
Quelle célèbre chanteuse a été confirmée au casting du prochain film sur le Joker avec Joaquin Phoenix.
Madonna.
Mathieu.
Non. Mathieu. Lequel
Les Comines. Lady Gaga.
Qui a dit ça ouais. C'est Comines qui a dit ça.
Ouais, Comines, ouais.
Lady Gaga. Lady Gaga, la chanteuse américaine a confirmé sur Instagram qu'elle sera l'affiche de Joker, Folie à deux, dans lequel elle pourrait incarner le rôle d'Harley Quinn, l'acolyte du Joker, personnage qui avait permis à Joaquin Phoenix de remporter l'Oscar du meilleur acteur en 2020.
Bon, il n'y a pas des questions plus intéressantes.
Et c'est Comines qui prend le large face à Limoges. Ça fait 3-1. On continue. Allez, on passe à la question charade, qui vaut 2 points. Vous connaissez la règle, j'espère. Mais de Mathieu, oui. Vous pouvez répondre vous à tout moment. En revanche, Thierry et Emmanuel, vous attendez, que j'ai dit mon tout. D'accord ?
D'accord.
Mon premier est la moitié d'un quart. Non, pardon.
Non.
Ah, ouais, je l'ai donné, c'est pas grave. Excusez-moi. Mon premier est la moitié d'un demi. Bon, vous avez le premier. Ça, c'était pas bien compliqué. Mon deuxième est le contraire de out en anglais. Mon troisième est un article défini. Mon quatrième est un synonyme de commerçant.
Karine Le Marchand.
Qui a dit ça ?
Karine Le Marchand.
Qui a dit ça ?
Et moi.
Comines.
Ah bah de toute façon c'était Comines, c'était Mathieu de Comines et Thierry. Donc ça fait 5-1, mais il y a encore du temps, donc ça fait 5-1 pour Comines.
On peut pas avoir des questions un peu plus intello pour Mathieu de Limoges et moi, parce qu'entre les tampons hygiéniques, Lady Gaga,
c'est de la culture générale. Je suis désolé, on ne dénigre pas ses adversaires.
Générale.
Mon premier, la moitié d'un demi, j'avais dit, donc je l'avais donné, que c'est quart. Mon deuxième est le contraire de out en anglais, in. Mon troisième est un article défini, le. Mon quatrième est un synonyme de commerçant, marchand. Mon tout est une animatrice télé, Karine Le Marchand. Allez, nouvelle question. À qui doit-on cette célèbre phrase ? Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends.
Comines.
Oui.
Zlatan Ibrahimovic.
Non.
Non. Mais non, c'est.
Je ne perds jamais. Soit je gagne.
Napoléon.
Soit j'apprends.
Oui, Winston Churchill.
Non. C'est un grand homme d'État.
De Gaulle.
Mais oui, mais Afrique du Sud.
Oui.
Mandela.
Mandela. Voilà, je le savais.
Ah ouais, mais désolé, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. 3, 4, 5, ça fait 6-1 pour Comines, bon, qui a d'ores et déjà gagné, hein, vous l'aurez compris. Mais une dernière question pour la beauté du jeu. On y va ?
Oui, allô ?
Après deux journées de championnat, quel club occupe la place de dauphin du PSG en Ligue 1 ?
L'OL ?
Non.
Limoges ?
Limoges ?
Nice ?
Non.
Rennes ?
Comines ?
Oui.
Marseille.
Oui, Marseille, l'OM avec une victoire et un match nul. Les Marseillais sont deuxième à égalité parfaite avec Lille. Et c'est sans contexte que Comines l'emporte. Alors ça fait combien ? 3, 4, 5, 6, 7 à 1. Mais bravo. Oui, bravo également à Mathieu d'avoir joué hein, de Limoges avec nous. Et merci à Mathieu de Comines et bravo à toi. Belle journée du côté donc de Comines. Tout de suite, eh ben, on parlait de sport à l'instant. On va continuer à parler de sport, mais là, avec des spécialistes. Pierre Dorion est là, c'est l'Intégral Sport.
Et d'ailleurs, on va parler de l'OM. On va débattre de l'Olympique de Marseille et de son buteur polonais, Arkadiusz Milik. Milik a-t-il un avenir à l'OM ? Je sais que c'est un sujet bouillant à Marseille, donc vous appelez le 32-16 pour débattre avec Roland Courbis. Avant cela, nous aurons eu les médaillés du 110 mètres haies, Pascal Martino Lagarde, bien sûr vice-champion d'Europe, et juste Kouaou Maté. Et puis, des infos, beaucoup d'infos mercato, avec un rebondissement, peut-être, dans le dossier Oussem Aouar, le Lyonnais, à qui s'intéresse Nottingham Forest en Angleterre. Mmh. Mais c'est pas si simple que ça. Hein. Hier, on présentait le transfert comme quasiment acquis. Il y a peut-être encore un petit bout de chemin à parcourir.
On va voir ça.
Oussem Aouar de Lyon.
Très bien, on va voir ça avec toi, Pierre, et toute l'équipe. C'est l'Intégral Sport sur RMC. Nous, Estelle Midi, on se retrouve dès demain sur RMC à partir de midi et jusqu'à 15h. À demain.